Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot, Coupe du Monde féminine.
Arnaud Valadon.
13h56 sur RMC, vous êtes au cœur de l'intégrale foot spéciale. 8e de finale de la Coupe du Monde féminine, France-Maroc, 3-0 pour les Françaises. À la pause, ça se passe très bien. On est toujours avec Élise Bussaglia, ancienne internationale, Fleur Jaffrelo. Bref, on a vu une première mi-temps où on s'est régalé, Élise et Fleur. Maintenant, que faire sur cette deuxième mi-temps, Élise? Il faut continuer, il faut faire tourner, il faut rester appliqué. C'est un petit peu particulier, alors évidemment, pour les Marocaines qui doivent peut-être sauver l'honneur, mais pour nous aussi, gérer ce 3-0.
Oui, il faut continuer comme ça. Après, effectivement, les filles vont de plus en plus, plus le temps va passer, plus les filles vont penser au quart de finale. C'est légitime. Après, il faut quand même rester bien concentré sur ce match parce que, voilà, il faut pas se blesser, faut pas prendre un carton bête ou idiot et rester dans cette deuxième mi-temps. Après, je pense que le staff va gérer l'effectif avec des changements assez rapidement. Pourquoi pas dès la mi-temps si une fille, par exemple, présente un petit souci physique. Mais au niveau du jeu, en termes de purement de jeu, faut continuer comme ça parce que je pense que les filles prennent énormément de plaisir sur cette première mi-temps. Le ballon circule bien, il circule vite. Et dès qu'il y a eu des accélérations, des espaces qui se sont créés, elles l'ont pris à merveille et ça a créé des occasions, voire même directement des buts. Donc il faut qu'elles continuent comme ça.
Et on va tenter de parier sur cette deuxième mi-temps.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Oui, on va tenter, Yoann Guillet, parce que là, il faut le flairer le bon coup. Hein.
Bon, faut chercher, on va dire. En tout cas, au niveau des cotes sèches, il n'y a plus aucune cote pour l'équipe de France. Le match nul est à 300, la victoire du Maroc est à 1000, forcément. Donc, on va partir plutôt du côté de... Je vois au niveau des buteuses, ça peut être pas mal. Le doublé de Jenny Le Sommer est à 2,90. Celui de Khadidia Toudiani est à 4. Le but de Wendy Renard est à 5,30. Et si jamais on voit éventuellement un relâchement justement de cette équipe de France et pourquoi pas le Maroc qui marque un but au cours de cette seconde période, les deux équipes qui marquent, c'est exactement à 3,50.
Ah, le doublé de Gagny, je fonce, Fleur.
Ah, je fonce aussi, 4 pour son doublé.
Tu fonces, Élise?
Oui, avec une cote comme ça, oui.
Ah oui, on va foncer. Merci, Johan.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Coup d'envoi imminent de cette deuxième mi-temps de France-Maroc à la Coupe du Monde féminine. RMC Radio officielle de la Coupe du Monde 2023. On retrouvera Anthony Reich sur place à Adélaïde, Aurélien Tirsain aux commentaires avec cette équipe de France qui nous fait vraiment plaisir et peut-être qu'il se rapproche. Il n'y a plus que 45 minutes avant ce quart de finale. Ça sera samedi 9h si les Bleus passent. On prend évidemment toutes les précautions d'usage, mais face aux pays hôtes, ça sera évidemment une autre histoire. Mais on se régale vraiment, Élise, de cette première mi-temps. Moi, j'ai l'impression, j'ai quelques stats sous les yeux. 7 tirs à 0 pour la France, 306 passes réussies à 60, 75% de possession de balle, 9 centres à 0. Bref, on a vraiment dominé tous les compartiments du jeu. Et ça s'est vu, Élise, dès les premières minutes. On se souvient un petit peu du scénario du Panama où on se prend ce coup franc après deux minutes de Cox. Mais là, vraiment, dès le coup d'envoi, les Bleus ont mis leur empreinte sur cette rencontre.
Oui, tout à fait. Il faut rappeler que le Panama, c'était un match particulier. Voilà, troisième match. Même si on n'était pas qualifié, il y avait quand même un gros turnover. Donc, c'était pas l'équipe type. Là, on a l'équipe type. On a un match décisif pour ce huitième de finale. On savait qu'on était largement favori. Et en termes de qualité, on savait qu'on était au-dessus du Maroc, mais il fallait encore le démontrer et le voir. Et ce qui est bien, c'est que sur cette première mi-temps, on le voit parce qu'effectivement, il y a 3-0, mais on le voit surtout en termes de jeu. L'équipe de France a fait une excellente première mi-temps avec beaucoup, beaucoup de maîtrise, avec des très belles actions qui ont fini par des buts, avec des jolis buts en plus. Donc voilà, là, c'est vraiment presque la mi-temps parfaite. Voilà, si on veut un petit peu aller chercher les petits points noirs, on va dire que c'est dommage de pas avoir plus d'adversité parce que ben va se profiler un quart de finale très difficile contre l'Australie et là on est presque un petit peu trop facile, on va dire, mais bon, ça c'est pas de la faute de l'équipe de France.
Mais quelque part, on peut pas avoir un excès de confiance, justement, Fleur, si on met ce paramètre-là en disant oui, c'est le Maroc qui est en difficulté parce qu'on les a poussés en difficulté, mais c'est que le Maroc, en respectant évidemment cette équipe marocaine qui a réalisé quelque chose d'exceptionnel en se qualifiant pour les huitièmes.
Oui, bien entendu, tout en respectant le Maroc, oui. Moi, je pense qu'il n'y aura pas d'excès de confiance. Le staff des Bleus, avec Hervé Renard, saura faire prendre conscience aux joueuses que rien n'est fait et que l'Australie, c'est une grosse nation. On l'a vu encore hier, elle se qualifie sur le score de 2-0. On l'a vu, on connaît leur qualité, on les a jouées pendant la prépa, les joueuses le savent. Hein. Elles savent que le Maroc, c'était peut-être un peu plus facile, entre guillemets, et que l'Australie, là, on va passer un cap. L'Australie, c'est une grosse nation, c'est un prétendant au titre, je pense, qu'elle soit chez elle. Hier, c'était encore impressionnant, la domination qu'il a pu avoir. Et on connaît leur qualité aux Australiennes, elles travailleront pour faire le travail samedi.
Est-ce que voilà, Hervé Renard doit fixer, je sais pas, un petit objectif, un petit challenge sur cette deuxième mi-temps? Je pense notamment, et c'était le message de Mala sur l'appli Direct Studio, qui disait au moment de pronostiquer, on prend toujours un but. C'est vrai que ça s'est passé contre le Brésil, contre le Panama, évidemment avec ces trois buts. Là, de garder la cage inviolée, c'est un challenge et ça serait même bien aussi pour tout le monde.
Oui, bien sûr, et connaissant Wendy, qui est très compétitrice et qui a horreur de prendre des buts, Pauline aussi d'ailleurs, Pauline Perromanien, je pense que le clean sheet est largement souhaitable sur ce match-là. Ça peut être un petit challenge. Après, au niveau offensif, forcément, on a envie toujours de se faire plaisir en marquant des buts au niveau collectif. Hein, c'est pas forcément un plaisir uniquement individuel. Donc voilà, peut-être mettre un ou deux buts en plus. Mais après, je pense que voilà, si à un moment donné, faut s'arracher un peu trop pour aller chercher le ballon, je pense qu'il y a des courses intelligentes à faire aussi. Il y a un quart de finale qui se profile, donc il faut aussi être intelligente dans ses efforts, parce que maintenant, les matchs vont s'enchaîner quand même avec peu de jours de récupération entre eux, donc il faut aussi gérer ça.
Et ça va repartir dans un instant, la deuxième mi-temps de France-Maroc, huitième de finale à la Coupe du Monde. On a retrouvé Anthony Reich avec Aurélien Tiercien. Tiens, cette image, Anthony, toi qui es au stade, et Aurélien, tu vois aussi ces images, les Bleus qui se rassemblent. Anthony.
Ouais, les Bleus qui se rassemblent, et c'est la capitaine Wendy Renard qui donne les toutes dernières consignes. Elle veut certainement que ses troupes démarrent correctement et parfaitement cette deuxième période. Elle le fait assez souvent hein, depuis le début de ce mondial. C'est la patronne, c'est la tôlière de ce vestiaire, et elle veut les guider pour aller chercher facilement, pas prendre de risques, facilement cette qualification en quart de finale.
Mais attention, elles ont froid, t'as vu cette image, Élise. Ouais. Vous avez vu Selma qui est Bacha qui est là. Oh, j'ai froid, faut se réchauffer.
Ouais, aux sorties des vestiaires, ouais. c'est pas toujours évident, faut vraiment se remettre vite dedans là.
Anthony. Je peux vous dire qu'il fait pas très chaud. Il fait pas très chaud. Moi, j'ai deux doudounes sur moi là, une petite doudoune sans manche et le manteau en plus. Il fait une petite dizaine de degrés à Adélaïde. On est loin de l'été chez vous. Hein.
Allez, le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, Aurélien Tiercin.
Ouais, ce sera pour Ibtissam Jraidi, l'avant-centre marocaine qui évolue en Arabie Saoudite depuis la saison dernière. Elle n'a pas vu beaucoup de ballons. Allez, c'est parti. La seconde période de ce France-Maroc huitième de finale de Coupe du Monde féminine qui, pour l'instant, se déroule à merveille pour les Bleus d'Hervé Renard, 3-0. Diani, Dali, Le Sommer, une première période de rêve, mais ne pas se relâcher avec une première occasion pour les Marocaines. Peut-être sur le côté gauche, la première frappe, et ça va passer à gauche des cages de Pauline Perromanien. La frappe d'Anissa Lamari, la joueuse de l'en avant Guingamp. La première frappe marocaine, c'est quand même important dans les têtes. Bon, elle était hors jeu largement, mais elle a eu le temps quand même de frapper. Et Pauline Perromanien qui a pu au moins se dégourdir un peu les jambes, 3-0 pour l'équipe de France. Mais voilà, cette équipe marocaine qui va revenir avec des intentions un peu meilleures.
Anthony, nos yeux à Adélaïde, est-ce qu'il y a des joueuses à l'échauffement?
Écoute, là il y a 4 joueuses françaises qui viennent tout juste de partir à l'échauffement. Léa Le Garec, Clara Matteo, Viviane Assey et Estelle Cascarino.
Ah, intéressant. Vicky Béchaud par exemple, oui.
Non, pour l'instant, elle reste au chaud sur le banc de touche.
Donc c'est intéressant. On peut imaginer pourquoi pas une Léa Le Garec à la place de Toletti, Élise qui est menacée d'un jaune, Clara Matteo pour Kenza Dali. Ça peut être des petites pistes hein, au vu voilà, de ces premières joueuses qui s'échauffent pour préserver hein, Toletti, Dali et Karchaoui qui sont sur la menace d'un carton jaune. Et je peux rajouter Estelle Cascarino pour Sakina. Hein.
Exactement, oui, c'est ça, c'est la probabilité. Après, on va voir ce que fait Hervé Renard, mais effectivement, par rapport au carton jaune, c'est ce qu'il risque de faire, oui.
et on peut le comprendre de pas prendre de risque, même si c'est vrai, bien Aurélien, quand on voit le rythme du match, on a vu des matchs beaucoup plus physiques que ça dans cette Coupe du Monde 2023. Là, ça met pas trop de taquet, comme on dit.
C'est clair. On a parlé notamment du physique des Jamaïcaines pour l'entrée en liste des Françaises. Là, c'est relativement tranquille. Alors, elles sont quand même mieux rentrées dans cette période, les Marocaines, peut-être un petit peu plus motivées pour aller vers l'avant. Mais voilà, au milieu, quand tu as Toletti, Gueyoro, Kenza Dali, c'est forcément plus simple. L'ouverture de la Marocaine du Maroc vers Jraidi. Mais Wendy Renard, on l'a dit, 1m87 face au 1m60 de Jraidi. Elle écarte un peu les bras, Wendy Renard, et c'est terminé. Elle a éteint tout le monde. Elle va protéger Pauline Perromagnan, la sortie de la gardienne française sans aucun problème. 3-0 pour l'équipe de France, qui se prise tranquillement les moustaches, si je peux m'exprimer ainsi. Ça va être au milieu de terrain avec Grace Gueyoro sur le côté gauche pour Sakina Karchaoui. De nouveau pour Wendy Renard. Elisa d'Almeida qui reste à droite de sa capitaine dans la charnière, et d'Almeida là, qui va parfaitement ouvrir le jeu sur la gauche pour Sakina Karchaoui. Le jeu en triangle Bacha Gueyoro. La remise de Toletti, elle est un petit peu légère. Heureusement pour les Françaises, les Marocaines ont beaucoup de mal à renvoyer le ballon. Donc là, on est reparti sur un rythme comme la première mi-temps. Bacha qui fait le tour du monde là en passant 1, 2, 3 Marocaines. Le ballon qui va atterrir dans les pieds de Eugénie Le Sommer à l'entrée de la surface de réparation. La petite passe vers Kadi Diani et c'est contré par Benzina sur le côté droit. La relance du Maroc avec Ouzraoui face à Sakina Karchaoui. Le ballon qui va atterrir dans les pieds d'Anissa Lamari, le 1-2 avec Ouzraoui, la Marocaine qui va s'en sortir, qui va conserver le ballon. Les Françaises qui ne sont pas assez agressives. Le ballon dans la surface pour Jraidi face à Pauline Perromagnan. La sortie, elle est bonne de Pauline Perromagnan. Alors elle était limite, mais elle a réussi à tendre le bras gauche au dernier moment. Le contre est favorable, ça rebondit sur la Marocaine et ça va sortir derrière la ligne de but. Sortie de but, 6 mètres pour l'équipe de France. Mais là, ça commence un petit peu à se relâcher défensivement. On en reste à 3-0.
Ah, limite la sortie de Pauline. Heureusement que le contrôle est un peu long. Limite, qu'est-ce que t'en penses, Élise?
Ouais, elle sort bien, mais c'est vrai qu'elle est un peu juste. Peut-être rester dans son but et laisser de Almeida au contact. C'était voilà. Après, c'est un choix de sa part. Poste de gardienne de but est tellement difficile aussi à analyser que je préfère pas trop juger quand même.
Mais d'ailleurs, moi, je trouve sur cette Coupe du Monde féminine que en 2019, on en avait un petit peu parlé dans les médias du niveau des gardiennes. Et je trouve qu'il y a une réelle progression. Cette année, on voit pas de boulettes hein, pour appeler sa attention. Peut-être le débordement de Bacha, Aurélien. Ouais,
sur le côté gauche, comme d'habitude, le centre au deuxième poteau. Il est bon, mais c'est dégagé. C'est récupéré par Grace Gueyoro. La reprise de demi-volée, dégagée par Nesrine El-Shad. Les Marocaines qui souffrent à chaque fois que le ballon est dans la surface de réparation. Mais elle n'était pas assez tranchante, cette frappe de Gueyoro. Mais derrière, elle va s'accrocher au basque des Marocaines. Et elle va contrer le ballon. Et peut-être la contre-attaque des Marocaines touche à venir pour l'équipe africaine.
On voit aussi de plus en plus sur le niveau des gardiennes. D'entraîneurs spécifiques. Hein. On sait que c'est finalement arrivé tardivement dans les staffs des équipes féminines, que ça soit D1, D2, dans la formation aussi d'avoir des entraîneurs de gardiennes. Tu trouves qu'on a quand même bien augmenté le curseur sur cette Coupe du Monde par rapport à 2019?
Oui, 2019, ça avait déjà été, c'était déjà le cas hein, par rapport aux années précédentes, mais c'est vrai que les gardiennes évoluent de plus en plus. C'est sûr que le travail fait paye aussi. Après on voit qu'elles sont décisives aussi hein. On voit le match de la gardienne suédoise contre les États-Unis. Sans une bonne gardienne, je pense que les États-Unis passent, et sans une bonne gardienne suédoise hein, j'entends bien, et voilà, le poste est déterminant, donc forcément quand le niveau évolue, ça aide aussi les équipes qui ont des bonnes gardiennes.
Fleur, toi qui as fréquenté encore récemment à Juvisy, voilà, des clubs formateurs, les spécifiques gardiens, ça s'est développé ces dernières années, comment ça se passait?
Moi, quand je suis arrivée dans le monde du football féminin, c'était déjà le cas, c'était déjà bien installé, que ce soit dans ma formation ou après à un niveau au-dessus, quand j'évoluais avec le groupe de la D1, c'était déjà le cas. Il y avait déjà cette notion de il y a un travail à fournir, il y a eu du retard, bien sûr, parce que je pense que j'arrive pas à savoir pourquoi, mais il y a eu un gros retard. Les joueuses avec lesquelles je jouais me disaient, il y a des gardiennes qui s'échauffaient toutes seules. Les trois, elles partaient à l'entraînement. Le groupe allait s'échauffer de son côté. Le préparateur physique s'en occupait. Et puis les gardiennes s'échauffaient toutes seules. Moi, j'ai pas connu ça, mais je sais que c'était quelque chose de plutôt courant.
Toi, t'as connu ça, Élise, tes premières années à Saint-Mémy, même peut-être à ton arrivée à Juvisy aussi.
Oui, oui, il n'y avait pas forcément de spécifique pour les gardiennes. Ça s'est mis en place au fur et à mesure. Après, ça pouvait être le cas, par exemple, sur une séance dans la semaine, mais pas sur les autres séances. Ça dépendait. Le préparateur gardien de but n'était pas forcément tout le temps là, effectivement, pour les spécifiques. Après, ça dépend aussi des pays. Par exemple, des pays et des clubs. Par exemple, je sais qu'en Espagne, au Real Madrid, ils font pas forcément de spécifique pur pour la gardienne sur une séance complète. Ils prennent les gardiens peut-être, on va dire, 20-25 minutes en début de séance et c'est tout. Alors qu'en France, il y a parfois des séances.
Et attention aux pertes de balles quand même, les Marocaines qui attaquent avec le centre de Chebak sur le côté droit, Pauline Perromania. On en parlait des gardiennes. Là, elle vient parfaitement capter le ballon dans les airs. 3-0 pour l'équipe de France après 52 minutes et 20 secondes. Mais Grace Guillero qui tricote un petit peu dans sa moitié de terrain. Le ballon est perdu et derrière, ça peut se projeter aussi rapidement. On a vu Ouzraoui et encore une fois Chebak à l'entrée de la surface de réparation pour les Marocaines. Elle est toute seule à droite. Ouzraoui, heureusement, l'intervention de Wendy Renard, la tôlière de la défense. Mais les Marocaines toujours avec le ballon dans la moitié de terrain des Françaises avec Ait El Hadj qui peut décaler Giraidi et Chebak dans la surface de réparation. Ils se sont pas bien comprises, les deux Marocaines, et le ballon qui va filer jusque dans les pieds et les gants ensuite de Pauline Perromania au niveau de la ligne de but. Mais là, on voit un relâchement très clair. On approche de l'heure de jeu. 3-0 pour l'équipe de France, c'est bien. On disait, voilà, un clean sheet, garder la cage inviolée et continuer à appuyer là où ça fait mal et ne pas reculer. Mais c'est ce qu'on est en train de faire.
Anthony Reich, Adélaïde, t'as une petite info. Nous réclamions Vicky Béchaud. Visiblement, on a été écouté. Mais aussi sur ce début de deuxième mi-temps des Françaises. Voilà, un petit peu de relâchement, non?
Oui, oui, je partage votre sentiment. Je trouve qu'il y a un peu de relâchement. Les lignes sont un peu plus écartées et il y a peut-être un peu moins de précision aussi. Donc, faudrait pas qu'on retrouve un peu les mêmes mésaventures que face au Panama. Et effectivement, comme tu le disais, Arnaud, vous avez été entendu puisque Vicky Béchaud est arrivé dans la zone d'échauffement de l'équipe de France il y a quelques minutes et Clara Matteo est repartie sur le banc. Et Hervé Renard, il a froid aussi. Hein. Il a remis la doudoune, le sélectionneur.
Allez, le top score, Aurélien Thiersin.
3-0 pour l'équipe de France. 53 minutes et 45 secondes. Les buteuses, Diané à la 15e, Dali à la 20e, Le Sommer à la 23e.
Est-ce que, voilà, ce petit moment de flottement, Élise Bussaglia, Fleur Jaffrelot, je vous rappelle le dispositif à 14h13 sur RMC. On vit ensemble ce 8e de finale. France-Maroc, Aurélien Thiersin et Anthony Reich. Élise, est-ce que ce petit moment de flottement vient aussi du fait qu'on a laissé tout simplement le ballon marocaine?
Non, je pense que ça vient du fait que les Marocaines ont mis plus d'intensité, plus de pression sur le porteur de balle et ont récupéré plus de ballons. On poussait aussi à la
attention
faute.
Attention, Kershawi dans la surface de réparation pour Grace Guillero qui a un petit peu d'espace. Allez, c'est refermé. Elle doit écarter sur la gauche avec Selma Bacha. La nouvelle passe pour Grace Guillero. Il n'y a pas de 1-2. Bacha est resté en retrait et c'est mal joué parce que Grace Guillero était hors jeu. Pardon, Fleur, mais on était dans la surface de
réparation.
C'était
Élise, mais c'est pas grave.
Pardon, désolé. Bah, double désolé. 3-0 pour l'équipe de France après 54 minutes. De jouer.
Élise.
Oui, donc voilà, les Marocaines, je pense, se sont fait un petit peu reprendre à la mi-temps par Pedros, qui n'était pas content de leur première mi-temps. On l'a vu agacé sur le banc de touche. Et voilà, elles mettent plus d'intensité, elles viennent plus au pressing, elles sont plus agressives. Et ça gêne un peu plus les Françaises, mais on voit que dès que les Françaises arrivent à mettre cette justesse technique, elles arrivent à trouver des décalages. Et ça pourrait faire mal sur le score, mais il faut absolument mettre cette justesse, et pour ça il faut aussi du mouvement autour du porteur de balle.
Anthony, sur l'échauffement en ce moment des remplaçantes, est-ce que tu sens que ça va être imminent ou pas? On est à la 56e, on sait que l'heure de jeu, c'est une période qu'aime bien Hervé Renard. Hein.
Ouais, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment d'accélération ou une joueuse qui a été appelée par le banc, à l'exception à l'instant de Viviane Assey, je pense, là je suis un petit peu caché, mais elle a rejoint le banc et elle devrait faire son entrée dans les toutes prochaines minutes.
Et bon, on va voir ça dans un instant. Évidemment, on est bien sur RMC et c'est ce 8e de finale France-Maroc à la Coupe du Monde féminine. On est ensemble jusqu'à 15h20. Après, vous retrouverez les meilleurs moments du Super Moscato Show. Pierre Dorion, Adrien Aiguin et bien sûr Vincent Moscato et toute sa bande. Allez, retour au direct. Aurélien Thiersin au commentaire de ce France-Maroc.
Bah, le grand pont de Khadid Diani, mais bonne intervention de Nesrine El Chad, la défenseur marocaine. Le ballon loin devant Elisa Del Meida. D'ailleurs, pour l'anecdote et le rolling gag entre guillemets de ce match, elle a encore inversé avec Wendy Renard. Ça n'arrête pas à gauche, à droite. Les deux ont envie de prendre leur marque des deux côtés du terrain. 57e minute de cette partie, 3-0 pour l'équipe de France. Et l'action, mine de rien, tout à l'heure, déjà réduit le grand tampon sur le sommeur de la part d'Anan Haït El Hadj. Jenny Le Sommer qui reste au sol. Bon, c'est costaud. Le carton jaune pour la latérale droite de l'équipe du Maroc, la numéro 17, Anan El Haït El Hadj. Jenny Le Sommer, bon, elle a pris un bon tampon là sur au niveau de la hanche derrière la jambe gauche. Le carton jaune est mérité, c'est clair, Arnaud.
Ah, Elie, c'est totalement gratuit ça. Hein.
Ouais, elle est très très en retard. Elle y va gaiement, comme on dit. Hein, mais franchement, c'était pas nécessaire. Et en plus, elle peut vraiment faire mal à Eugénie. Je pense que là, elle a pris une bonne béquille et c'est vraiment, elle aurait pu s'abstenir là.
Ouais, c'est un match qui se déroule bien. Bon, après, on peut pas non plus reprocher aux Marocaines de vouloir peut-être un peu mettre de l'intensité, de l'agressivité, même si on n'est pas à 0-0, on est quand même à 3-0. Fleur, comment tu vois cette deuxième mi-temps? T'attends aussi les changements, peut-être? On est voilà un petit peu entre deux eaux là.
Oui, on attend les changements parce que je pense que comme une Viviane Assey qui peut potentiellement rentrer incessamment sous peu, ça peut faire du bien. Ça peut lui faire du bien à elle. Et puis on attend aussi une Vicky Béchaud qu'on aime beaucoup durant cette Coupe du Monde.
Hein.
Voilà, exactement. Et puis une Clara Matteo, on sait qu'il peut y avoir beaucoup de changements offensifs. Alors ça va apporter un peu de fraîcheur.
Oui, Viviane qui a peut-être même besoin d'être un peu relancée. Elle n'a pas trop de temps de jeu, Elise, sur ce début de Coupe du Monde.
Oui, elle est rentrée contre le Panama, mais c'est vrai qu'elle a peu de temps de jeu. Clara Matteo aussi, qui avait fait un bon euro, donc je pense que c'est des filles dont on peut avoir besoin. Donc effectivement, si la Hervé Renard peut les relancer et qu'elles peuvent reprendre un petit peu confiance et puis un petit peu leur sensation, c'est tout bénéfique pour l'équipe.
Clara, encore une passe ratée là, Def Périssé, Arnaud, les Marocaines qui contre-attaquent avec Rizlan Sheba qui a de l'espace à gauche. Elle va finalement donner le ballon vers Anissa Lamari. La bonne sortie de Pauline Perrault-Magnin. Superbe sortie.
Aussi,
aussi excellente, t'as raison de le souligner, mais au moins la gardienne française qui peut enfin se dégourdir les jambes, mais aussi intervenir de bonne manière. Mais cette passe ratée par Eve Périssé, c'est le relâchement qu'Hervé Renard avait pointé en seconde période face au Panama. C'est un petit peu en train d'arriver. Alors pour l'instant, il n'y a pas de conséquences, on en reste à 3-0 juste avant l'heure de jeu pour l'équipe de France face au Maroc. Mais attention, malgré tout, il y a l'Australie qui arrive pour l'une des deux équipes en quart de finale. Donc a priori, ça sera pour la France. Et il faut aussi s'appuyer sur cette seconde période pour continuer à travailler.
Élise.
Oui, tout à fait. Il faut continuer à travailler les automatismes, à travailler la qualité, puis à se faire plaisir. Quand on fait des passes, voilà, ça, c'est aussi se faire plaisir, donner un bon ballon à la partenaire, se mettre dans les meilleures conditions possibles pour produire du jeu et amener nos attaques. Et là, on a un peu plus de déchets, ce qui ne nous permet pas de se créer des occasions.
Ouais, plus de différence, les Françaises. Selma Bacha qui essaie de passer ballon au pied, mais elles mettent beaucoup plus d'intensité et plus de physique. Les Marocaines comme Elodie Nakache devant Selma Bacha. C'est un peu plus compliqué de passer en 1 contre 1. Il y a peut-être aussi un petit peu moins d'envie, d'intensité du côté des filles d'Hervé Renard. Alors Krenal Pedros, l'entraîneur français, qui avant le match disait n'avoir aucun scrupule s'il devait battre l'équipe de France, évidemment, lui prépare ses premiers changements. Ça va peut-être apporter un peu de sang neuf, aussi un peu d'intensité, d'énergie à cette équipe marocaine. Il va rester une demi-heure à jouer à Adélaïde au Windmarsh Stadium et l'équipe de France mène toujours tranquillement 3-0, début marqué entre la 15e et la 23e, un moment où le Maroc avait vraiment la tête sous l'eau et depuis, eh bien, les Françaises ont beaucoup plus de mal à toucher Le Sommer et Diani dans la surface de réparation. Le rythme qui est bien retombé, mais la différence est faite.
Mais attention à ne pas s'énerver, Anthony, Rech, toi qui es au stade à Adélaïde, on voit les Marocaines mettre des petits coups, on est aussi pas trop bien rentré dans cette deuxième mi-temps côté français. Est-ce qu'il y a un peu d'action sur le banc d'Hervé Renard?
Oui, ça bouge là à l'instant justement. Vicky Béchaud va faire son entrée. Elle est en train de prendre les dernières consignes de Gilles Fouache, la jeune attaquante de l'Olympique Lyonnais de 19 ans qui est la sensation de ce mondial. Côté bleu, il y a une petite rotation au niveau de la zone d'échauffement puisqu'il y a Naomi Feller aussi, la jeune attaquante du Real Madrid qui est en train de s'échauffer, qui pourrait peut-être jouer ses premières minutes après avoir été embêtée par une blessure au niveau de la cuisse. Et elles sont encore 5 à s'échauffer, les bleus, Léa Le Garec, Viviane Assey, Clara Matteo, Naomi Feller, donc, qui sont toutes là-bas, là, en train de s'échauffer, mais pas de réelle accélération pour elles. Donc, pour l'instant, en tout cas, dans un premier temps, Vicky Béchaud.
Élise, tant qu'on n'a pas mis ce quatrième but, j'allais dire que les Marocaines vont continuer leur petit jeu de nous harceler, d'essayer d'aller marquer les petits mauvais coups. Est-ce que c'est vraiment ce quatrième but qui peut leur remettre un petit coup sur la tête, comme on l'a vu avec nos trois buts en 8 minutes?
Oui, ça pourrait anéantir un petit peu leur velléité. Après, je pense vraiment qu'elles ont à cœur de faire une bien meilleure deuxième mi-temps que ce qu'elles ont montré en première, et pourquoi pas gagner cette deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que du côté français, ce serait quand même bien de remettre un petit peu de rythme et d'intensité dans nos transmissions, dans nos attaques, parce que là, on pourrait un peu baisser le pied, et c'est pas forcément la bonne idée pour aller en quart de finale.
Le top score, Aurélien Tiercin.
3-0 pour l'équipe de France face au Maroc. La 62e, les buteuses Diani, Dali et le sommeur.
Peut-être une dernière action.
Avec le centre sur le côté droit de Kenza Dali à venir. Voilà, elle s'y a reprise à deux fois. La tête de Dali, elle passe encore au travers la gardienne marocaine. Mais derrière Eugénie, le sommeur, elle est surprise. Ça lui rebondit sur le protège-tibia. Malheureusement, elle avait le but grand ouvert pour le marquer, ce quatrième. Mais elle n'avait pas prévu que tout le monde passe au travers. 3-0 toujours pour l'équipe de France.
Ah oui, c'est vraiment au dernier moment pour Eugénie Le Sommer. On revient dans un instant, l'intégral foot spécial Coupe du Monde féminine avec Élise Bussaglia, Fleur Jaffrelot, Anthony Reich et Aurélien Tiercin. C'est notre dispositif exceptionnel pour ce huitième de finale. Enfin, est-ce qu'il est si exceptionnel comme ça? C'est comme ça que tous les matchs de l'équipe de France féminine à la Coupe du Monde RMC, radio officielle de la Coupe du Monde 2023. On revient dans un instant pour suivre la fin de ce huitième de finale France-Maroc.
RMC, intégral foot, Coupe du Monde féminine.
Arnaud Valadon.
Vous êtes au cœur de ce huitième de finale France-Maroc que vous vivez depuis midi. Le coup d'envoi était à 13h, mais on était ensemble déjà depuis midi avec Élise Bussaglia, Fleur Jaffrelot, journaliste Anthony Reich et Aurélien Tiercin, nos journalistes de la rédaction de RMC Sport, parce que c'est l'événement que l'on suit, ce France-Maroc qui se passe idéalement bien pour les Bleus. 3-0, Aurélien, Fleur, Élise et Anthony. Est-ce qu'on a vu du changement, Aurélien? On a vu du changement côté marocain. Hein.
Ouais, avec 3-0 pour l'équipe de France. 25 minutes encore à jouer. Les sorties de Elodie Nakache, Fatima Tagnaout et Anissa Lamari pour les entrées en jeu de Cassie, Ryan et Bouftini. Alors que du côté de l'équipe de France, vous l'avez voulu, vous l'avez. Béchaud, Vicky Béchaud est entrée à la place de Sandy Toletti. Donc changement offensif en plus de la part de Sandy Renard et Vicky Béchaud qui va concéder d'ailleurs le premier corner de la partie en faveur des Marocaines. Elle est revenue sur son côté droit, mais face à Zineb Redouani qui lui a fait un petit tour de passe-passe, le ballon qui passe derrière le pied d'appui. Et c'est donc un corner concédé par l'équipe de France. 24 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. 3-0 pour l'équipe de France qui se dirige vers son quart de finale de Coupe du Monde. Mais attention à ce corner de Rizlan Chebak, de la gauche vers la droite, la sortie de Pauline Perrault-Magnin. Ça continue de la mettre en confiance. Elle est parfaite, cette sortie de Pauline Perrault-Magnin. 3-0 pour l'équipe de France. Et donc Béchaud qui vient dynamiser un petit peu cette équipe de France.
Alors qu'on avait une joueuse marocaine empêcher Pauline Perrault-Magnin de relancer. Hein, là, Aurélien, c'est mise devant un peu, oui, comme à la cour d'école. Ouais.
Exactement. Donc Pauline Perrault-Magnin tranquillement. Il n'y a pas urgence en même temps pour l'équipe de France. Donc elle a attendu tranquillement d'avoir l'espace. Bon, il y a peut-être aussi un petit peu d'agacement côté marocaine de ne pas réussir à se mettre en position de frappe, en tout cas d'être dangereuse pour cette équipe de France. Le ballon récupéré par les Bleus avec le duo Lo Sommer-Diani. Il est magnifique. Sur une 2 sur le côté droit, il n'y a pas beaucoup d'espace pour Eugénie Le Sommer face à Benzina. Elle est entrée dans le coin droit de la surface de réparation. Elle attend le retour de ses coéquipières. Grâce Gayoro sur la droite de la surface de réparation. Elle se fait prendre le ballon par Redouani et Benzina. C'était trop compliqué. Elles n'ont pas mis toute leur volonté. On a l'impression, Gayoro et Le Sommer, elles ont quand même levé un petit peu le pied. Il n'y avait pas beaucoup de solutions. Elles auraient peut-être pu tenter la frappe un peu plus rapidement. Mais on est à 3-0 et bien tous les as sont dans la manche française tout simplement. Donc on attend 23 minutes encore avant la libération et la qualification peut-être en quart de finale. Le bon ballon de Almeida vers Le Sommer, le décalage vers l'équipe de France. Karchaoui qui va prendre le meilleur sur sa rivale marocaine. Elle avance Sakina Karchaoui vers la surface de réparation. Elle va repiquer la frappe du droit de Karchaoui, elle est gauchère. Sakina Karchaoui, elle a jamais marqué en équipe de France, mais là elle a mis le ballon directement dans les gants de Hermichi, la gardienne marocaine. On en reste à 3-0 pour cette équipe de France qui, on a l'impression, un petit peu, quand elle veut, elle peut. Quand elle accélère, elle fait mal aux Marocaines. 3-0 pour les Bleus.
Ouais, ça serait bien aller au moins de gagner la deuxième mi-temps pour le symbole. Élise, qu'est-ce que tu penses de ce changement avec Kenza Dali replacée dans l'axe, puisque Sandy Toletti est sortie et donc Vicky Béchaud sur le côté droit. Toletti qui était sous la menace d'une suspension en cas de jaune. Hein.
Oui, oui, Toletti qui est préservé par rapport à son carton jaune. Après, on sait que dans le groupe France, il y a peu de joueuses qui peuvent évoluer au poste de numéro 6 avec la, la blessure de, d'Amandine Henry en, en préparation. Léa Le Garec peut le faire, elle l'a très bien fait contre le Panama. Là, le coach a décidé de replacer Kenza dans l'axe et de remettre Vicky Béchaud à droite pour apporter un peu plus de vitesse aussi. Donc voilà, on va voir comment se débrouille Kenza dans, dans un rôle un petit peu plus défensif, mais vu qu'on a quand même le ballon, c'est, ça lui correspond bien aussi.
Allez, le coup franc, on les aime bien, les coups de pied arrêtés. J'imagine que Wendy Renard, on la voit aux avant-postes, Aurélien Tirsa. Ah,
évidemment, Wendy Renard avec son 1m87, défenseur central, 35 buts en équipe de France. Alors évidemment, elle est devant aux côtés de Le Sommer et Diani. 69e minute de jouée, 3-0 pour l'équipe de France qui se dirige vers un quart de finale de Coupe du Monde. Le coup franc de la gauche vers la droite, il y a le pied gauche de Selma Bacha, le pied droit de Kenza Dali. Ce sera Dali au deuxième poteau pour la remise de d'Almeida. Non, ça revient dans les pieds de Wendy Renard. Finalement, de d'Almeida, c'est contré, mais ça revient en permanence devant la cage vers Michy. C'est contré par Sarah Cassi, d'ailleurs native de Nogent-sur-Marne, la milieu de terrain marocaine. Elle joue à Fleury, elle est entrée, elle n'a que 19 ans et elle défend les couleurs des Lions de l'Atlas. Et là, heureusement pour son pays, qu'elle a contré Elisa de Almeida qui essaie de déborder sur le côté droit. Mais là, Elise, on voit défenseur central pour mettre un petit coup de hanche sur la droite pour dribbler, bah, c'est moins facile. On voit la différence avec Bacha, Périssé ou Karchaoui. C'est clair, Elisa de Almeida qui
c'est d'autres qualités.
Ouais, c'est
pas
clair.
Le même coup de rein.
Avec Le Sommer dans l'axe pour Gueyoro. Et malheureusement, la passe de Jenny Le Sommer, elle est un petit peu trop dans le dos. Et le ballon va revenir au niveau du rond central. Karchaoui qui va mettre un grand coup de marteau là vers Vicky Béchaud sur le côté droit. La feinte sur Zineb Redouane. Les petits passements de jambes de Vicky Béchaud qui va centrer en deux temps au deuxième poteau. Il y a la tête de Le Sommer. Et ça fait 4. Et ça fait 4. Et qui dit 4 dit quart de finale pour l'équipe de France. C'est fait à 99%. Et l'entrée de Vicky Béchaud, elle est magnifique. Le centre au deuxième poteau doublé pour Eugénie Le Sommer. 92e but en sélection. Il reste 20 minutes et ça fait 4-0.
Ah, on le sentait qu'on avait appuyé sur le champignon, Élise, là depuis 5-10 minutes qu'on avait retrouvé notre qualité technique.
Oui, oui, un petit peu plus de justesse et puis un peu plus de tranchant aussi. Là, on le voit avec Vicky Béchaud qui fait la différence sur son côté. Elle travaille bien son défenseur, un petit coup d'accélération et puis ensuite un centre au second poteau. Des ballons qu'affectionne Eugénie Le Sommer et qui a largement le temps d'ajuster sa tête. Et un doublé pour elle, c'est super.
Et Anthony, j'entends Gala, Fruit from Desire, on a droit à Gala sur les buts des Bleus.
Ouais, c'est ça, exactement. C'était la musique là, qui était lancée par le speaker de stade et la sono du stade. Tout à l'heure, on a eu la musique du stade Vélodrome aussi. Hein. Tu sais, il y a une bonne playlist là, ce soir, Adélaïde. En tout cas, Hervé Renard a apprécié, je peux vous dire. J'ai vu son visage là au moment de l'action de Vicky Béchaud et le but de Jenny Le Sommer. On sait qu'il aime beaucoup, beaucoup le profil de la jeune lyonnaise et elle marque encore des points ce soir. Hein. Pas beaucoup de temps de jeu, mais à chaque fois qu'elle entre sur le terrain, elle est décisive. Elle fait vraiment du bien cette équipe de France par son peps et sa qualité technique.
Enfin là, quand on commence à faire les comptes, Élise, entre Diani et Le Sommer, c'est un sacré duo prolifique. Hein. Je pense qu'on est la seule équipe à avoir deux attaquantes, à avoir autant marqué sur ce début de compétition. Vraiment le duo.
Ouais, le duo. Et en plus, là, elles sont efficaces parce qu'elles n'ont pas tant d'occasions que ça, on va dire, franche. Et il y a beaucoup d'efficacité. Et Diani n'a pas beaucoup touché de ballon dans ce match, mais elle est très, très importante sur chaque ballon qu'elle touche, très efficace. Et Eugénie, pareil. Donc voilà, on a un duo que l'Australie va forcément craindre aussi.
Et qu'on espère que le monde nous envie. Fleur, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que dit Élise, parce que après France-Jamaïque, Hervé Renard avait pointé du doigt les occasions manquées. On avait touché les montants et on visait un petit peu Kadidiatou Diani, qui avait eu pas mal de ballons dans la surface.
Oui, bien sûr, c'est très important. Je pense que si le score reste comme ça, on a deux très très bons points. On a été efficace et on a été bien sûr offensivement, mais on a aussi été efficace défensivement, un clean sheet. Donc je pense que ça serait très bon à prendre si on restait au moins comme ça défensivement et puis qu'on, pourquoi pas, qu'on mettait un petit peu plus de buts.
Et pour que ça soit parfait, pas de joueuses suspendues. Il nous reste Sakina Karchaoui et Kenza Dali sur le terrain sur une menace de suspension. Bon bah voilà, 4-0, on va trouver des choses à dire, vous inquiétez pas, hein, c'est l'intégral foot spécial Coupe du Monde féminine avec Élise Bussaglia, Fleur Jaffrelot journaliste, Anthony Reich et Aurélien Tiercin. Mais bref, on est bien et on file directement vers les quarts de finale. Ce sera samedi 9h avec l'Australie qui nous attend. D'ailleurs, Anthony qui est au stade, plus petit stade de la compétition, Adélaïde, et les Bleus qui retrouveraient Brisbane en cas de qualification. Donc là, on part vraiment sur la côte est du pays.
Ouais, il va faire bien meilleur aussi au niveau des températures.
Ah bah c'est bien
pour des températures estivales. Ah ouais, je vais pouvoir mettre le short. Écoute, ça va être sympa. Non, mais c'est sûr que le stade sera beaucoup plus sympa. Il est vraiment magnifique, le stade de Brisbane. Le seul hic, c'est que là, les Bleus vont jouer contre tout un pays. Clairement, il y avait énormément de monde. Je sais pas si vous avez vu les images hier lors de la victoire de l'Australie, mais elles sont vraiment, vraiment soutenues par le peuple australien. Donc, il pourrait y avoir une ferveur à Brisbane. D'ailleurs, je crois que toutes les réservations d'hôtel de quelques jours avant le potentiel quart de finale pour l'Australie ont explosé dans la ville. Donc à mon avis, ça va être aux couleurs jaune et verte pendant quelques jours là-bas. Va falloir tenir contre tout un peuple, hein.
La nouvelle passe de Le Sommer vers Khadid Diani, la bonne sortie de Khadija Hermichi, la gardienne marocaine. Mais il y a des espaces, encore plus d'espaces là dans la défense des Lions de l'Atlas qui essaient de se projeter un petit peu plus vers l'avant. Mais les Françaises qui ont laissé planer un mini doute, on va dire, pendant le premier quart d'heure de la seconde période, ont vraiment repris le contrôle du ballon. 16 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. Le mauvais dégagement d'Hermichi directement dans les pieds de Jenny Le Sommer qui a tenté sa chance de 40 mètres. Bon, ça partait pas très bien et c'est contré de toute façon par
Nesrinja.
Mais ouais, elle est en confiance, Jenny Le Sommer. Bah, je le disais tout à l'heure, Anthony, tu la suis depuis des années, mais 92 buts en sélection nationale. C'est Cristiano Ronaldesque là. Il n'y a pas beaucoup mieux dans le monde, hein, tout simplement.
Ah, ouais, et puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle en a mis énormément des buts aussi à l'Olympique Lyonnais. Mais elle a 34 ans, elle retrouve une seconde jeunesse, entre guillemets. Et pendant la préparation, je l'ai trouvée très affûtée. Elle mettait des buts incroyables à l'entraînement à Clairefontaine. Franchement, les lucarnes de Pauline Perrumani, elles étaient nettoyées constamment. Et ça, c'est bon signe. Elle a aussi retrouvé la confiance avec Hervé Renard, parce qu'Hervé Renard, il a été clair avec elle quand il l'a appelée au moment de sa prise de fonction. Au départ, elle devait être un peu super sub, hein, Eugénie Le Sommer. C'était le joker de luxe parce qu'il espérait Marie-Antoinette Katoto. Et puis, ça a changé en cours de route. Elle s'est adaptée et elle redevient la grande attaquante qu'elle a toujours été.
Elle a toujours nettoyé les filets comme ça, même à l'entraînement, Élise, Eugénie Le Sommer.
Oui, elle a un sens du but, une capacité à savoir s'orienter face au but et puis à savoir toujours où est la gardienne, où est le but. Avec une excellente frappe, elle est très complète, elle a un très bon jeu de tête malgré sa petite taille, on va dire.
1m61.
Elle a un super timing, elle a vraiment développé des qualités d'explosivité tout au long de sa carrière. Et c'est vrai que c'est une joueuse très complète qui a un très très bon sens du but. C'est une super buteuse, voilà, elle le montre encore ce soir et j'espère qu'elle va continuer comme ça pour l'équipe de France.
Un petit top score pour faire le point sur ce huitième de finale, Aurélien Tiercin.
Un quart d'heure à jouer et 4-0 désormais pour l'équipe de France. Diani, Dali et un joli doublé pour Eugénie Le Sommer.
J'ai un petit peu radoté Anthony Reich à Adélaïde au Windmarsh Stadium. Il y a des changements à venir? Non, est-ce que tu
non,
vois
voilà. Et non, écoute. Non, pour l'instant, c'est assez calme dans la zone d'échauffement. Là. Ouais, le banc n'a appelé aucune joueuse. C'est assez surprenant.
Oui, Élise, plutôt étonnant. Ouais.
C'est peut-être la première fois qu'après 76 minutes, on voit aussi peu de changements, un seul pour l'instant. Hein.
Surtout qu'il y a 4-0. Donc, ça me surprend personnellement parce que je me dis qu'il y a le quart de finale qui s'annonce.
Et peut-être 5, attention avec le petit ballon de Sema Bacha pour la reprise de Khadid Diani. Elle était à 6 mètres, la reprise de demi-volée. Elle n'arrive pas à rabattre le ballon et ça va passer nettement au-dessus de la barre transversale. Mais là, combinaison sur coup franc, le petit ballon piqué de Selma Bacha à droite pour De Almeida. Et la remise, elle est parfaite pour Khadid Diani. Il n'y aura pas de doublé pour la buteuse de
l'Olympique. On le voyait, hein, le doublé. Hein. Amis parieurs, si vous nous avez écouté, on s'excuse.
On le voyait arriver, mais ouais, c'est dommage. Là, c'est dommage qu'Adi qui peut et qui doit mieux faire. Là, elle doit plus rabattre. C'est un peu dommage. Elle s'en veut d'ailleurs à la fin de l'action, mais voilà, on va pas lui en vouloir. Mais en tout cas, si elle a la même contre l'Australie, il faudra la mettre. Hein.
Et Elisa de Almeida qui est bien rentrée, peut-être dans sa Coupe du Monde. Hein, on la voit, elle est à l'origine du centre. Beaucoup plus de mordant. Hein, c'est peut-être relâché un peu Fleur. On en parlait. Elle a un peu perdu sa place aussi après le match amical le match de préparation contre l'Australie juste avant.
Ouais, elle est complètement relâchée là. Cette deuxième période, c'est beaucoup plus propre, elle est beaucoup plus sereine. c'est beaucoup mieux. Et puis on peut le voir, hein, elle a cette capacité aussi à être latérale, on l'a vu là, elle prend le couloir, on ne voit pas tout de suite parce que c'est une joueuse qui est défenseur central, donc c'est pas la première qualité qu'on repère chez elle, mais c'est une joueuse très rapide. Elisa, moi j'ai eu la chance de la côtoyer très longtemps, on a pu partager les terrains assez longtemps ensemble, et c'est toujours une des joueuses les plus rapides de l'effectif.
Ouais, attention, de Almeida qui se rate là. C'est toujours comme ça. Il suffit de dire du bien d'une joueuse ou d'un joueur pour que derrière ça.
On va critiquer les Marocaines.
Ouais, exactement. Le ballon récupéré par Ouzraoui sur le côté droit pour Lyon avec Ibtissam Jraidi. Et ben voilà, Elisa de Almeida qui intervient pour éteindre le mini incendie. Et Sakina Karchaoui, le ballon a piqué vers le Sommer. C'était peut-être un petit peu osé de la part de Karchaoui, mais le Sommer se bat bien et le ballon est dégagé par les Françaises. Kadidia tout Diagne au niveau du rond central et de la ligne médiane sur le côté gauche du terrain. Avec son physique, elle va s'en sortir, obtenir la touche face à Anan Ait El Hadj.
Bah, on entend Hervé Renard crier derrière tes commentaires, tu l'as entendu Aurélien aussi.
Ouais, bah, je pense qu'il n'est pas content. Hein. Bah, même Anthony l'a entendu, je pense, là, dans le
stade. Mais c'est après l'arbitre, hein, il réclame des fautes, je crois, sur Kadidiadi. Hein. Anthony,
il supporte pas qu'on touche à ses joueuses. Voilà, c'est tout. C'est comme ça avec Hervé Renard.
Protecteur, hein.
Effectivement, il est protecteur et il est très proche de ses joueuses, même s'ils se connaissent pas tous ensemble depuis très longtemps. Et il s'agite pas mal là sur cette deuxième période. Je trouve qu'il est plus dans l'action que lors de la première période.
Si tu l'as entendu crier, Elise, mais il est allé gaiement là-dessus. Ça m'a marqué.
Ouais, ouais, ouais.
Peut-être l'action bien, cette deuxième mi-temps. Non, je
rigole. Il vit le match à fond. C'est très bien.
Et voilà. Il est encore dedans. C'est aussi voilà un signal que t'envoies au banc de touche. Hein. Ah,
oui, bien sûr,
Anthony,
bien sûr.
Ça y est, je vois, oui. Aurélien, je vois un changement qui arrive.
Cascarino et Naomi Feller, non ?
Ouais, Estelle Cascarino qui va faire son entrée. Et les premières minutes de Naomi Feller en compétition officielle avec l'équipe de France, la jeune attaquante du Real Madrid, d'ailleurs, qui est passée par un club que tu chéris tant, Arnaud, je crois. Hein.
Oui, le rouge et blanc, le stade d'or.
Le rouge et blanc.
On a eu Vicky Béchaud, on aime bien avoir des jeunes joueuses très talentueuses, tu sais. Hein.
Ouais, Melchi du Mornay aussi.
Ah oui, là, la pépite haïtienne, celle-là. Qui va être du côté de Lyon.
Exactement.
Estelle va jouer
Estelle Cascarino,
sa sœur, non ?
Oui, Anthony. Puisque Delphine Cascarino, ouais, est arrivée à Adélaïde, alors je pense soit hier, soit aujourd'hui, et elle a fait le déplacement pour soutenir ses coéquipières, ses copines, et puis évidemment sa sœur jumelle.
Ah bah là, les proches vont peut-être arriver un peu plus, hein. Voilà, qu'on avance dans la compétition. Certes, l'Australie, c'est loin, mais c'est l'occasion un petit peu pour tout le monde de venir aller soutenir. Et c'est important, les petits regards en tribune, parfois les petites visites à l'hôtel, hein, Élise. C'est ce qui se fait au cours d'une compète. Alors, surtout quand on est à l'autre bout du monde, hein.
Ouais, c'est très important. Ça fait toujours du bien de pouvoir se ressourcer un petit peu auprès de sa famille. Et puis, quand on a la chance d'avoir nos proches à côté, ça nous donne forcément plus de force. Et puis pour nos familles, c'est bien aussi, hein, pour la petite anecdote. Et en plus, j'en profite pour leur passer le bonjour. Mon petit frère avait demandé sa femme en mariage aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.
Ah.
Voilà.
Est-ce qu'elle avait dit
oui ?
Il y a
des belles histoires aussi.
Ça avait dit oui ?
Mais est-ce que tu avais le droit à une sortie ? C'est ça la question.
Pour
t'avais
le,
eu
le mariage.
Sortie pour assister à la demande ?
Ah non,
la
non,
demande. Non,
eu...
la demande.
Ah non, j'ai pas eu de point de sortie, mais bon, après,
bon, après généralement, pour une demande, t'invites pas toute ta famille non plus. Hein.
Non, c'est sûr, c'est sûr.
Mais c'est joli, hein, Rio, Copacabana, ça, on s'en souvient d'une demande comme ça. T'as des changements, Aurélien ?
Oui, Naomi Feller qui remplace Jenny Le Sommer, donc double buteuse, 8e but en carrière en Coupe du Monde. Ça commence à peser. Et puis Estelle Cascarino qui remplace F. Périssé. Alors, c'est Elisa de Almeida qui est passée sur le couloir droit de la défense, et Estelle Cascarino avec Wendy Renard qui, justement, Wendy Renard est en train de couvrir devant Rossella Ayane, la britano-marocaine qui évolue à Tottenham. Attention, la mauvaise relance de Pauline Perroman est récupérée très haut par Bouftini pour le Maroc. 8 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. 4-0 pour l'équipe de France. Il n'y a plus trop de suspense. Et là, Elisa de Almeida, nouvelle latérale droite. Donc elle aura fait défenseur central gauche, droite, et désormais latérale droite. Et elle s'en sort très bien. 4-0.
Elle a vu tout le terrain.
Ouais, exactement. 4-0 pour les Bleus. Elle le contrôle un petit peu long de Kenza Dali. Bouftini qui va laisser sortir et obtenir une touche pour le Maroc. 7 minutes et 30 secondes encore dans le temps réglementaire. Et l'équipe de France d'Hervé Renard qui a plus que valider la bonne impression laissée dans cette Coupe du Monde pour l'instant, hein, 4-0 direction les quarts de finale. On l'a dit, contre l'Australie à domicile. D'ailleurs, la seule défaite, Anthony, si je dis pas de bêtises, de l'ère Hervé Renard, c'est contre l'Australie le 14 juillet dernier.
Ah, mais on commence pas, Aurélien. Je te change.
Oui, après c'était un autre contexte. Elle venait de descendre de l'avion, tout ça. Selma Bacha qui s'était aussi blessée à la cheville, donc elle n'était pas vraiment dans leur meilleur jour face à l'Australie. Il y a eu pas mal de réglages depuis. Je pense que ça sera un tout autre match. Même si l'Australie a récupéré une certaine Sam Kerr, l'attaquante de Chelsea, qui a joué ses premières minutes lors du huitième de finale.
Et finalement, c'est peut-être pas plus mal, entre guillemets, je sais pas, mais bon, au moins on n'a pas ce sentiment d'avoir déjà battu les Australiens. Je te vois acquiescer, Fleur. Hein.
Ouais, ça peut paraître bizarre que je dise ça, mais je trouve ça bien, moi. Il y a eu 1-0, il y a ces frais encore, elles vont être revanchardes, ça c'est sûr. C'est un quart de finale, et bon, certes, l'Australie, c'est une très très bonne équipe. Moi, j'ai été très surprise du niveau de cette équipe durant cette Coupe du Monde. Mais ce petit sentiment de revanche sera en faveur des Françaises, je pense.
Et on sera présent pour vous faire vivre cette Australie-France samedi 9h, le coup d'envoi.
Évidemment, la petite déviation de Khadidia Toudiani vers Naomi Feller. Malheureusement, le contrôle est un petit peu long, dégagé par la gardienne marocaine directement sur Elisa De Almeida. Ça part dans le rond central pour Sakina Karchaoui, mais là il y a beaucoup d'espace, faut en profiter. Oh, Karchaoui qui perd le ballon devant les Marocaines dans le rond central, devant Rossella Ayane qui va récupérer le ballon. Mais non, c'est encore perdu pour Gueyoro. Et là, il y a beaucoup d'espace pour Selma Bacha sur le côté gauche qui va rentrer dans la surface de réparation. Elle est une excellente passeuse. Et là, encore une fois, on dit du bien et c'est raté. C'est directement dans les pieds de Sarah Cassi. Selma Bacha, double meilleure passeuse de la D1 Arkema. 4-0 pour l'équipe de France, les 5 dernières minutes. Et Rossella Ayane pour le Maroc qui va fondre sur la surface française. C'est bien arrêté par Wendy Renard. Ça s'est enflammé à gauche, à droite, sur les deux buts, et ça n'a rien donné. On en reste donc à 4-0, 4 buts d'avance pour l'équipe de France.
Allez, on va refaire un petit top score avec le nom des buteuses, Aurélien Tiersin.
Et donc 4-0, Diani Dali, doublé de génie Le Sommer. Il reste exactement 5 minutes et 13 secondes dans le temps réglementaire.
Il est 14h44 sur RMC. Vous êtes bien au cœur de l'intégral foot spécial 8e de finale. RMC radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2023. On est avec Élise Bussaglia, ancienne internationale, Fleur Jaffrelot, Aurélien Tiersin en commentaire. On est ensemble jusqu'à 15h20. D'ailleurs, le 32-16 est ouvert. On vous attend pour débriefer cette rencontre et se plonger vers cette Australie-France, le quart de finale qui aura lieu samedi à 9h, à vivre en direct en intégralité sur RMC. Et puis vous le savez, appli direct studio et hashtag RMC Live pour vos messages. Anthony, un petit coucou à Adélaïde. Tu es dans le stade avec, voilà, la messe est dite, tout simplement, les Françaises pleines de sérieuses. Et on est bien les Françaises, beaucoup de satisfaction. Et le staff qui, voilà, a fait un petit peu tourner sur la fin avec ses rentrées de Cascarino notamment. Anthony. Oh, on trouve Anthony.
Oh, il est parti se réchauffer. Il est parti se réchauffer.
Bah oui, il avait un petit peu frais. Il a rajouté une troisième doudoune. C'est pas grave. On le retrouvera d'ailleurs. Réaction à suivre depuis Adélaïde avec Anthony, les joueuses à son micro et Hervé Renard. Jusqu'à 15h20, on est ensemble et vous retrouverez après le super Moscato Show et les meilleurs moments. Encore une poignée de minutes à jouer dans ce temps additionnel. Voilà. Quelque part, dans ce temps réglementaire, plus le temps additionnel, mais il ne devrait pas y avoir beaucoup trop d'autres minutes. Élise, ce quatrième but a remis un petit coup sur la tête des Marocaines.
Oui, ça les a complètement refroidis sur leur velléité offensive. Et ça vient sceller un petit peu le match. Il y aura peut-être un autre but d'ici la fin, mais là vraiment on voit que les Marocaines finissent leur mondial un petit peu tristement par rapport au reste de la compétition, mais en même temps c'est ce qu'on présageait par rapport aux différences de niveau des deux équipes.
Oui, ne pas oublier la très belle performance de ces Marocaines qui se sont qualifiées aux dépens de l'Allemagne. On retiendra quand même cette Coupe du Monde historique. Un coup franc lointain, justement, pour les Lyonnes de l'Atlas, Aurélien Tiersin.
Ouais, 3 minutes à jouer, 4-0 pour l'équipe de France. Coup franc sur la droite du terrain pour Hanan Ait El Hadj. latérale de, du phare Rabat au Maroc. Elle est assez loin. La ligne de défense française est 10 bons mètres devant la surface de réparation. On est vraiment loin des cages de Pauline Perromanien qui elle est avancée sur ses 6 mètres éventuellement pour intervenir. Wendy Renard qui vient couvrir. Et c'est la grande taille de Wendy Renard. Il y a un contre défavorable pour l'équipe de France. Diani qui va dégager dans la surface de réparation alors qu'elle aurait pu laisser Pauline Perromanien dégager le ballon. Et Tori Penso, l'arbitre américaine, a touché le ballon. Elle va disputer un petit peu Grace Gueyoro qui a bien mis le petit coup de pied qu'il fallait devant Tori Penso pour ne pas reprendre le jeu trop vite et éventuellement être déséquilibré. Donc les Marocaines qui vont obtenir la possession du ballon à une trentaine de mètres des cages de Pauline Perromanien. 2 minutes et 10 secondes encore à jouer. Rizlan Chebak, la capitaine marocaine, qui écarte mal vers Karchaoui. C'est la latérale française qui peut dégager, mais c'est récupéré par Haït El Hadj qui veut dribbler Bacha. Et magnifique défense d'ailleurs, elle se tient la cheville droite. Attention à ne pas se blesser dans cette dernière minute. Selma Bacha qui reste au sol, alors le contact paraissait pas énorme. Elle en rajoute peut-être un petit peu pour gagner du
les
temps.
Les gros yeux de l'arbitre. Hein.
Ouais. Gros yeux de Tori Penso, 4-0 hein, pour l'équipe de France. 1 minute et 30 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Et elle a pris un petit coup de crampon sur le tibia. Ça n'a pas l'air trop méchant au ralenti, mais bon.
Le pied n'était pas planté dans la pelouse. Hein, donc la cheville, ça semble être plus un coup, Élise, hein, de ce que tu vois.
Oui, je pense que c'est plus un coup sur le haut de la cheville, voire le mollet. Donc,
allez debout.
C'est pas très inquiétant, je pense, pour Selma.
Elle est déjà sur le terrain.
Ça fait pas du bien non plus. Hein.
Non, ça fait pas du bien, c'est sûr.
Mais elle est déjà en train de récupérer le ballon. Là. Il y a deux ballons récupérés par Selma Bacha. Elle a du jus, elle repart vers l'avant. Et là, elle fait n'importe quoi sur la passe. Et il y avait Feller à gauche et Vicky Béchaud à droite. Elle a mis pile au milieu sur la gardienne Hermichi, la marocaine. La dernière minute du temps réglementaire. Et là, désormais. Mais bon, on peut s'avancer encore un petit peu plus. Hein. France-Australie, ce sera le quart de finale de cette Coupe du Monde à Brisbane. Vicky Béchaud qui va aller au pressing avec Feller et Khadid Diani. D'ailleurs, Vicky Béchaud, une petite stat qu'on n'a pas mentionnée, c'est la plus jeune joueuse française en tournoi majeur depuis 2005. Et Sarah Boisdi, hein, elle a joué donc en Coupe du Monde à 19 ans et 283 jours. Ça veut aussi dire quelque chose quand on est une très, très jeune joueuse de l'équipe de France. Hein. Ça fait 18 ans qu'on n'avait pas vu ça, de voir une joueuse aussi jeune jouer un match de grande compétition.
Et on a vu un petit peu de changement dans l'air. Fleur, tu as pu jeter un coup d'œil, tu as vu qu'elle est rentrée.
J'ai vu, oui, je pense que Viviane Assayi va faire son entrée. Et puis Aïssa Toutounkara qui va pouvoir disputer ses premières minutes aussi dans cette Coupe du Monde. Ça va lui faire du bien, Elka. Qui a peu joué cette saison avec Manchester, qui retrouve les terrains, ça fait toujours, c'est toujours positif pour elle, pour le moral.
Et du coup, si on retire les gardiennes, parce que c'est particulier, je crois qu'on a vu Fazer, donc tout le monde a joué avec l'entrée à venir de Toumkara. C'est pas mal niveau gestion, il sait y faire, Hervé Renard. C'est le petit symbole quand même, après 4 matchs, d'avoir fait jouer tout le monde, toutes les joueuses de champ, hein, je m'entends.
Oui, c'est symbolique, mais c'est important quand même, parce que.
Voilà, goûter
aussi à la compétition. Et puis pour Aïssatou, je repense à la grave blessure qu'elle avait eue il y a quelques années. C'est toujours bien de la revoir à haut niveau.
Et Sakina Karchaoui qui va céder sa place tout
avec
de suite.
Khadid Diatou Diani, exactement. En 3 minutes de temps additionnel, l'équipe de France mène 4-0. Hein. Diani, Dali et Le Sommer, les buteuses de ce match. Donc Viviane Assayi qui n'a pas marqué depuis 5 matchs avec l'équipe de France, éventuellement prendre un petit peu de confiance. Alors en 2 minutes, c'est pas facile. Et puis Aïssatou Toumkara, dernière sélection en équipe de France, c'était contre la Suède en octobre 2022. Donc ça fait vraiment un moment qu'on ne l'a pas vu sur le terrain avec le maillot bleu de l'équipe de France. Aïssatou Toumkara qui va rentrer dans la défense de l'équipe de France. Un petit peu moins de 2 minutes désormais à jouer dans le temps additionnel de ce 8e de finale de Coupe du Monde à Adélaïde en Australie méridionale. Et 4-0 pour l'équipe de France qui a vraiment régalé, même si il y a eu des moments un peu de creux évidemment quand on domine largement un match. Les trois premiers buts marqués entre la 15e et la 23e minute. Donc le suspense a quand même assez peu duré dans cette partie. On va attendre les 90 dernières secondes. Ne pas faire de bêtises, la relance de Wendy Renard. Elle est contrée par les Marocaines. Il y a le pressing quand même de Rossella Ayane qui va prendre le ballon devant Wendy Renard. Et elle va concéder un corner à la capitaine de l'équipe de France, alors que Selma Bacha est de nouveau au sol, en train de se tenir la cheville droite. Là on peut commencer à s'inquiéter un tout petit peu. C'est dans 4 jours hein, le quart de finale. Et Selma Bacha, qui est une joueuse intéressante, très intéressante dans le système d'Hervé Renard, hein, la meilleure passeuse de D1 deux années de suite.
Ah,
et
là, ça
la cheville a bien tourné là.
Oh, on a n'aime pas ça. On n'aime pas ça de voir cette image. Après, bon, à voir dans quelle proportion, hein, si c'est juste un petit twist, comme on dit dans le jargon. On va les remonter tout de suite.
Ouais, là, c'est chaud. À voir quand ça refroidira. Elle boite quand même un petit peu, Salma Bacha. C'est quand même pas de chance là de se faire accrocher deux fois dans les quatre dernières minutes. Mais bon, ça veut dire aussi qu'elle donne tout, qu'elle est toujours agressive sur le ballon, Selma Bacha. Et ouais, ce serait un petit coup dur quand même, parce que son entente avec Sakina Karchaoui dans le couloir gauche, c'était magnifique. Et 20 secondes à jouer dans le temps additionnel, et le corner là, il est complètement raté de la part des Marocaines. Ça va directement derrière la ligne de but. C'est Bouftini qui est entré il y a une dizaine de minutes sur le terrain, qui a fait sortir le ballon directement. 10 secondes encore, dans 10 secondes l'équipe de France sera en quart de finale de la Coupe du Monde 2023 en Australie, 4-0 face au Maroc. Un match particulier pour beaucoup de joueuses, notamment Sakina Karchaoui, elle qui est franco-marocaine, qui a délivré la passe décisive magnifique sur la tête de Diani pour le premier but. Et monsieur madame Penso qui va laisser le temps dérouler encore un petit peu, 3 minutes et 15 secondes désormais de jouer dans le temps additionnel. 4-0 pour l'équipe de France. Hervé Renard qui va pouvoir goûter donc à un nouveau tour avec l'équipe de France. Pas de faute aux alentours de la surface de l'équipe de France. Aissatou Tounkara, défenseur de Manchester United, pour Vicky Béchaud qui se retourne. C'est magnifique. Elle va obtenir une petite faute, Vicky Béchaud, sur le côté droit. Et donc le chrono, Arnaud, qui continue de défiler. Mais le suspense est désormais néant à 0%. L'équipe de France qui va pouvoir dérouler pendant encore quelques secondes avant de rejoindre Brisbane et l'Australie en quart de finale. Le long dégagement vers Naomi Feller et Viviane Assey, la défense de Nesrine El Chad, la défenseur de Lille en deuxième division française, qui va d'ailleurs monter en D1 Arkema si je ne dis pas de bêtises. Et la touche est subi par le Maroc, et c'est terminé. L'équipe de France aura déroulé. Hervé Renard a donné sa chance à tout le monde. Les Bleus compte deux attaquantes, deux buteuses de très très haut niveau, le top niveau mondial, Khadija Toudiani et Eugénie Le Sommer. 4-0, c'est parfait, et donc direction les quarts de finale face à l'Australie. Ce sera samedi matin, heure française, 9h à Brisbane.
Et on sera là, évidemment, tout le dispositif RMC, ce quart de finale qui s'annonce déjà allégeant, mais on revient ensemble jusqu'à 15h20 sur cette victoire implacable de l'équipe de France, 4-0 en huitième de finale. Elles ont dominé, Élise Busaglia, la maîtrise, c'est ce qui ressort, hein, vraiment de ces 90 minutes des Bleus.
Oui, tout à fait, une maîtrise totale en première mi-temps, ensuite une deuxième mi-temps, on va dire, gérée, avec des choses un petit peu moins bonnes, mais en même temps la première mi-temps était d'une telle qualité qu'on peut pas non plus être à fond sur 90 minutes. Donc voilà, un huitième de finale totalement maîtrisé. Maintenant place à la récupération, au voyage, parce qu'il va falloir quand même
un peu plus de 2h30 d'avion, 3h
voilà,
d'avion.
Voilà, aller de l'autre côté pour ce quart de finale contre le pays hôte, qui va être un petit peu plus relevé quand même. Hein.
Ouais, le pays hôte, mais en attendant, Aurélien, les images de satisfaction. Voilà, il y a les accolades avec les Marocaines. On sent pas trop de. C'est le job est fait. J'ai l'impression de voir ça en lisant les visages des Françaises. Aurélien.
Pardon Arnaud, le petit micro était fermé. Oui, forcément de la satisfaction. Et puis bon, la messe était dite depuis un moment. Les trois premiers buts entre le quart d'heure et la 20, le quart d'heure de jeu et la 23e minute, on a pu se détendre un petit peu dans les têtes, parce que le piège marocain. Alors évidemment, après le match, on voit bien qu'il y a un vrai écart de niveau entre les deux équipes. Mais il y avait toujours ce petit doute dans les têtes quand on voit le Canada, les États-Unis, l'Allemagne sortis de cette Coupe du Monde. C'est aussi important, il faut avoir un petit peu de chance au tirage, entre guillemets. Il faut aussi assumer son statut, c'est jamais facile de l'assumer. Mais là, en tout cas, il y a des grandes accolades entre Renan Pedros,
Hervé
Renard, aussi, qui vient féliciter les Marocaines, lui qui a été sélectionneur de l'équipe masculine du Maroc, qui a gardé beaucoup d'attaches, beaucoup de liens entre les deux pays, entre toutes les joueuses, beaucoup de respect, et finalement presque des sourires des deux côtés, parce que les Marocaines aussi ont vraiment kiffé leur Coupe du Monde, tout simplement. La huitième de finale pour leur première participation, c'est magnifique aussi.
Ah bah, il y a deux équipes que l'on félicite, la France pour la qualification et les Marocaines pour leur magnifique parcours, Élise.
Oui, c'est vrai que les Marocaines, pour leur Coupe du Monde, ont fait un très beau parcours. Après, je pense qu'elles sont un peu déçues de leur première mi-temps, surtout où elles ont Elles ont sombré sur les 25 premières minutes, hein, où elles se sont fait vraiment bousculer par l'équipe de France. Elles encaissent 3 buts en quelques minutes, en une dizaine de minutes. Donc c'est vrai que pour elles, c'est un petit peu dur. Mais sur l'ensemble de leur compétition, je pense qu'elles sont quand même satisfaites et contentes de ce qu'elles ont pu montrer. Voilà, ça va aussi leur permettre de continuer à travailler et de grandir.
Oui, Fleur Jaffrelot, bon, on voit quelques larmes quand même chez les Marocaines parce que l'aventure se termine, mais elle était belle. Elle continue, heureusement pour nous, les Françaises, mais il y a un peu d'émotion quand même, je trouve.
Ouais, bah, c'est une première Coupe du Monde, c'est les premières huitièmes de finale de leur histoire. C'est beau, l'histoire est belle. C'est une aventure humaine aussi, je pense que Elise saura le dire, mais du coup, elles vont se quitter, c'est fini pour elles, c'est la fin du voyage. Il faut tourner la page, c'est le retour à la réalité, donc c'est normal qu'il y ait de l'émotion, je pense.
Et ça fait forcément toujours un peu mal. On revient dans un instant, on est ensemble jusqu'à 15h20 pour débriefer la qualification de la France face au Maroc, 4-0 à la Coupe du Monde féminine. On sera avec des auditeurs, le 32-16 est ouvert pour débriefer. Appli direct studio, hashtag RMC Live. Elise Bussaglia, Fleur Jaffrelot aussi. Les premières réactions avec Anthony Reich à Adélaïde, avec les Françaises qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, ce sera samedi.
RMC Intégral Foot, Coupe du Monde féminine. RMC Intégral Foot, Coupe du Monde féminine.
Arnaud Valadon.
15h03 sur RMC, on est ensemble jusqu'à 15h25 pour débriefer ce huitième de finale de la Coupe du Monde. Victorieux pour les Bleus, 4-0, vous retrouverez Vincent Moscato et les meilleurs moments du Super Moscato Show tout à l'heure, mais on continue d'analyser cette bonne nouvelle. Les Bleus sont en quart de finale et ce sera samedi 9h, Australie-France sur RMC. On est toujours avec Elise Bussaglia, notre consultante RMC, avec Fleur Jaffrelot, journaliste et ancienne joueuse de D1-D2, Aurélien Tiercé qui a commenté cette rencontre. Anthony Reich nous fait signe. Il est à Adélaïde en Australie et il attend la première réaction des joueuses de l'équipe de France et d'Hervé Renard après cette qualification et ce match maîtrisé. Bon, c'est l'Australie, Elise, qui nous attend, le pays hôte. Évidemment, ce sera une toute autre ambiance avec ce stade de Brisbane, près de 50 000 places, je crois. Une ambiance hostile, une équipe aussi différente que le Maroc. Bref, on a notre grand match de la Coupe du Monde. Je ne dis pas que France-Maroc n'était pas un grand match, mais c'était un match important. Mais là, c'est un premier réel grand tournant dans la compétition des Bleus qui attend samedi ce quart de finale France-Australie.
Oui, tout à fait. Le match contre l'Australie va vraiment être déterminant, hein, parce que c'est un quart de finale, ça peut ouvrir les portes sur la demi, et ça va être vraiment, vraiment très, très difficile contre l'Australie, pays hôte qui sera devant son public, qui vont vraiment les pousser avec un stade qui sera archi, archi plein, et surtout une équipe qui peut être très embêtante pour l'équipe de France, qui met beaucoup d'impact, qui est très athlétique, qui se projette très, très vite vers l'avant avec des attaquantes vraiment qui adorent prendre les espaces et faire mal aux défenseurs sur des course à répétition. Donc voilà, ça va être vraiment une très belle opposition de style et un très beau quart de finale. Voilà, c'est vraiment avec beaucoup d'attente que je vais patienter jusqu'à samedi, parce que ça va être un gros quart de finale.
Et on sera évidemment ensemble sur RMC, RMC radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2023. Et Elise, il y a aussi, et tu la connais bien, cette barrière des quarts de finale, éliminée en 2015, éliminée en 2019. Il y a ça aussi, alors ça va être peut-être plus un truc de journaliste, j'allais dire, de médias, d'analystes, mais il y a cette série en cours, entre guillemets.
Oui, c'est un truc de médias parce que c'est des choses qu'on peut retenir facilement et dire et répéter, mais moi, personnellement, le meilleur souvenir de ma carrière, c'est un quart de finale en 2011. Alors, ça remonte, certes, mais voilà, c'était une Coupe du Monde, c'était contre l'Angleterre et on gagne le quart de finale. Donc, après, c'est sûr que c'était déjà il y a quelques années. Après, cette barrière des quarts de finale, les filles, elles les ont passées sur d'autres compétitions, elles les ont passées aussi sur des compétitions de jeunes. Maintenant, c'est... Dans la tête des filles, c'est pas un quart de finale et une barrière, c'est un match contre l'Australie. Donc voilà, c'est ce à quoi elles penseront. Le match contre l'Australie, point. Elles se diront pas, c'est un huitième, un quart, une demi. C'est juste, voilà, on veut continuer la compétition, il faut gagner. C'est des matchs couperets, que ce soit le huitième ou le quart. Il faut battre l'Australie pour aller en demi et puis c'est tout.
Parce qu'on le voit, évidemment, le tableau Aurélien, il ne reste que 8 équipes désormais engagées.
Ouais, exactement. Et l'Australie, ce qui est compliqué avec l'Australie, c'est que c'est certes une bonne équipe, mais surtout l'équipe qui joue à domicile. Et la moitié de tableau de l'équipe de France nous ferait affronter en cas de victoire en quart de finale l'Angleterre ou la Colombie en demi, ce qui est à la portée de l'équipe de France, hein, qui ces derniers temps, lors des dernières éditions de la Coupe du Monde aussi, c'était deux éliminations contre les États-Unis. Une contre l'Allemagne. Donc à chaque fois des énormes morceaux, même si c'est moins vrai pour cette édition-là, c'est quand même une moitié de tableau qui semble abordable pour l'équipe de France. C'est pas un parcours totalement ouvert et ça sera loin d'être facile, mais souvent l'équipe de France a quand même assumé son statut, et son statut, il faudra affronter le stade qui sera totalement conquis par les Australiennes, mais il y a quand même désormais un tableau qui est pas si mauvais pour les Françaises.
Les Australiennes qui n'ont jamais atteint le dernier carré d'une Coupe du Monde. Il y a eu aussi pas mal de quarts de finale. 2007, 2011, 2015, huitième de finale en 2019. Fleur, sur le papier, si on fait juste abstraction du fait que c'est en Australie, évidemment c'est un paramètre important, mais est-ce que les deux effectifs se vaut ou on est un peu devant ?
Non, je pense que le duel sur le papier, hein, je dis bien, il est un peu déséquilibré. La France a quand même l'avantage. Hein. Mais, encore une fois, il faut vraiment pas les négliger. Moi, je pense à une joueuse comme Ford. Elle m'a impressionnée durant cette Coupe du Monde. Elle a été incroyable. Elle a encore marqué hier. Enfin, c'est une des pièces maîtresses de cette équipe. Et elle fait mal. Elle fait très très mal. Je pense à Kerr, bien sûr, qui a joué, je crois, une vingtaine de minutes hier aussi. Meilleure joueuse australienne. C'est, on le sait, c'est l'icône là-bas. Alors
Elle était même sur la jaquette d'un fameux jeu vidéo, la joueuse de Chelsea. Non, mais c'est possible, voilà.
Lequel ?
Je ne veux pas faire de la pub, mais non, mais c'était important aussi. Une des premières, et peut-être, je crois, la première femme à être sur la jaquette d'un jeu vidéo partagé avec un homme, c'était Sam Kerr. Hein.
Oui, bien sûr. Après, je pense que quand cette Coupe du Monde a débuté, on n'aurait pas pensé que le niveau de l'Australie serait aussi élevé. Et je pense que c'est une équipe qui est montée en puissance. Bien sûr, elles sont à la maison, elles ont public avec elles, mais pas que. C'est une équipe vraiment, comme l'a dit Élise, c'est dans l'impact, c'est fort. Athlétiquement, c'est une équipe qui nous a fait mal à ce match de prépa. Et donc, je pense que c'est vraiment un gros match. Moi, je vois ce match comme une grosse rencontre.
Anthony Reich nous appelle à Adélaïde avec une joueuse Eve Périsset, Anthony.
Oui, avec Eve Périsset, la latérale droite de l'équipe de France. Eve, une victoire 4-0, une rencontre vraiment bien maîtrisée, le job est bien fait et place au quart de finale.
Oui, voilà, c'était l'objectif ce soir, c'était la qualification, c'est ce qu'on a su faire. On a réussi à se mettre à l'abri dès la première mi-temps. Après, je pense qu'on peut encore mieux faire sur certains aspects, parce que voilà, on a énormément de qualité, mais l'objectif de ce soir est rempli et maintenant à nous de bien récupérer et se projeter pour la suite de la compétition.
Et en quart de finale, un gros morceau, l'Australie, le pays hôte. Vous allez devoir faire face à une équipe, mais aussi à tout un peuple.
Oui, mais c'est bien, voilà, il y aura du monde et ça va, je pense, nous motiver encore plus. Puis c'est beau de voir que les stades sont pleins à chaque fois, donc non, franchement, c'est positif. Et après, ce sera à nous de bien préparer ce match et faire un gros match lors des quarts de finale.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eve.
Merci.
Félicitations.
On dirait qu'elle a écouté Élise. La récupération, ça va être important, hein?
Oui, forcément. En plus, voilà, les Australiennes ont joué hier, donc elles ont déjà un jour de plus de récupération. Et puis, voilà, maintenant, les matchs commencent à compter dans les jambes. C'est le quatrième, là, voilà, ça commence à peser, forcément. Même s'il y a eu du turnover sur le troisième match, forcément, c'est un aspect à prendre en compte. Donc, il faut que tout ce qui fait partie de la préparation invisible soit prise très au sérieux par les joueuses et le staff. Mais j'ai aucun doute là-dessus. Je sais qu'elles vont, là, elles vont aller directement dans les bains froids, elles vont faire un peu peut-être de vélo même dans le vestiaire. Enfin voilà, la récupération, elle commence dès la fin du match. On voit celles qui sortent, elles ont déjà les boissons de récupération dans les mains données par le docteur. Donc tout ça, c'est pris très très au sérieux et on sait que c'est capital pour la suite de la compétition.
Et on voit les joueuses, je pense que c'est celles qui ont le moins joué, faire un petit décrassage là sur la pelouse dans le stade vide de Adélaïde, de Inmarsh Stadium. Anthony Reich va nous appeler dès qu'il y aura une réaction. Wendy Renard, justement, la capitaine. Anthony.
Ouais, avec Wendy Renard, la capitaine de l'équipe de France. Wendy, victoire 4-0, une victoire pleine de consistance ce soir.
Oui, je pense qu'on a pris le match par le bon bout. Le coach avait demandé beaucoup de rigueur, de détermination, d'entrée. Et on a respecté cette équipe et je pense qu'on a. Ouais, il y a eu de belles choses, mais il y a beaucoup de choses aussi à améliorer. Il y a eu aussi trop de pertes de balles en première mi-temps. Après, c'est normal, face à un bloc comme ça, on essaye des passes qui sont des fois difficiles. Et forcément, on a un peu plus d'échecs. Mais dans l'ensemble, le fait de ne pas avoir concédé de buts aussi, on en marque 4 pour les attaquantes. Donc c'est cool, ça continue comme ça.
On vous a senti, dès l'entame de match, toutes vraiment très concentrées, très concernées, avec beaucoup d'applications pour peut-être pas rééditer les petits trous d'air qu'il y a pu avoir dans le début de la compétition.
Oui, parce que c'est une belle équipe aussi, le Maroc. Elles ne sont pas arrivées là par hasard. Elles ont des joueuses quand même de qualité. Et si on les laissait jouer, on aurait pu être en difficulté. Donc dès le début du match, il fallait qu'on mette de l'intensité. Et on s'est dit que c'était à nous de se le rendre facile. Ça n'allait pas être facile, donc c'est ce qu'on a fait. Et voilà, on aurait pu marquer d'autres buts, insister par moment, mais c'est cool.
Quatrième quart de finale en Coupe du Monde pour l'équipe de France face au pays hôte, l'Australie. Vous allez devoir faire face à une équipe évidemment qui est quand même très solide et qui a montré de bonnes choses, mais aussi à tout un pays.
Ouais, tout un pays, c'est normal. On est ici en Australie. Face à l'Australie, en tout cas, il y aura une belle ambiance et ce sera à nous déjà de bien récupérer. Et puis après, on aura le temps de regarder un peu tout ça. On a eu cette chance de pouvoir les jouer juste avant la Coupe du Monde. Donc, il y aura des enseignements à tirer de notre match, même si forcément, c'est différent parce que c'est la compétition. Mais avec aussi la fatigue, l'enchaînement des matchs, il y a des failles des deux côtés. Mais c'est à nous d'être costaud et de ne pas laisser à l'adversaire. Mais en tout cas, on est prêtes, on donnera tout et moi, je serai en mission encore.
Merci Wendy, félicitations.
Anthony Reich depuis Adélaïde, notre envoyé spécial RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2023 avec Wendy Renard. Élise, on se pose pas la question du mollet, hein. Ça a l'air d'aller très bien pour Wendy. Hein.
Oui, ça va très bien. De toute façon, s'il y avait eu la moindre alerte, Wendy, elle aurait pas pris de risque. Elle aurait fait signe au coach. Elle serait sortie. Elle se connaît très, très bien. Voilà. Il y a eu un petit pépin à un moment donné qui a été très bien géré. Wendy, elle se connaît par cœur. Et là, non, aucune inquiétude par rapport à Wendy.
Et Wendy, si je me trompe pas, a disputé son 20e match en compétition majeure. C'est le record. Elle dépasse Sandrine Soubéran. Je crois qu'il était à 19.
Ah, c'est pas mal, ça. Bah, longévité de Wendy, puis. Oui, passer Sandrine Soubéran, ça veut dire quelque chose. Et c'est pas fini, on l'espère, peut-être. Un 21e match, un 22e, un 23e pour aller au bout de cette Coupe du Monde. C'est ce qu'on souhaite à l'équipe de France. Le Super Moscato Show, les meilleurs moments arrivent dans 12 minutes. Mais nous, on continue de parler dans l'intégral foot de ce succès de l'équipe de France qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine. Cette victoire 4-0. Aurélien, on peut d'ailleurs rappeler les buteuses de ce match. Tout est allé très vite en première mi-temps.
Ouais, exactement. Bah d'ailleurs, c'est peut-être les trois meilleurs de l'équipe de France, hein, sur le plan offensif en tous les cas. Khadija Toudiani qui marque au quart d'heure de jeu. Ensuite Kenza Dali à la 20e, donc ça allait très vite. Le but de Jenny Le Sommer à la 23e et puis Le Sommer qui aura le droit à son doublé avec un but en seconde période. Mais vraiment, Le Sommer, Diani et Kenza Dali sur le côté droit, ce sont vraiment les trois atouts décisifs de cette équipe de France. Et en même temps, j'oublie Selma Bacha en disant ça, qui a été excellente aussi. Donc finalement, il y a peut-être que des bons points cet après-midi pour l'équipe de France.
Mais c'est vrai, on voit peu de joueuses qui sont passées au travers. Anthony Reich, depuis les travées de l'Inmarsh Stadium, tu as vu les joueuses passer devant toi. On a eu F. Périsset et Wendy Renard à ton micro. Voilà, le job est fait, mais c'est pas terminé, loin de là. Hein.
Ouais, c'est pas terminé. De toute façon, elles ont toutes, dès qu'on leur parle de l'Australie, les visages se referment et se concentrent à nouveau. Elles sont beaucoup à être passées en zone mixte. Et une petite information, j'ai croisé Selma Bacha qui boitait bas. Elle avait une énorme poche de glace au niveau de la cheville et déjà un premier strap. Elle avait l'air de souffrir. Elle ne s'est pas vraiment arrêtée au micro, fort logiquement, mais c'est l'obligation hein, des joueuses, vous savez, d'un certain nombre de joueuses de passer en zone mixte. Donc elle a fait le job, mais va falloir surveiller parce que il y avait l'air d'y avoir de la souffrance du côté de Selma Bacha.
Ouais, on a vu deux chocs hein, sur la cheville, Élise. D'abord, voilà, un premier choc, les crampons sur le haut de la malléole. Et après, c'est plutôt le deuxième avec une torsion dans la pelouse.
Oui, le premier n'est pas du tout inquiétant parce que c'est un coup et ça va vite passer. Il y aura un petit hématome, ça va vite passer. Le deuxième, par contre, effectivement, il y a une torsion de la cheville. Et là, je pense que Selma va bien glacer ce soir, va passer la nuit, puis on verra demain un petit peu comment elle pose le pied, mais c'est vrai que ça fait mal.
À voir, sachant qu'il y a déjà Maëlle Lacrar en délicatesse avec sa cuisse. On le disait aussi en avant-match, Fleur, on a un peu plus de ressources dans le secteur défensif parce que si voilà Selma, alors Selma c'est une attaquante, une ailière, mais on a voilà des gauchères qui peuvent jouer à sa place. Et même là, on a vu finalement Elisa de Almeida bien rentrée dans sa compétition au poste de centrale.
Oui, là on l'a vu, c'était le changement majeur de ce 11 au vu de la blessure de Maëlle. Elisa a débuté cette rencontre. Un petit peu, on sentait peut-être un peu de stress, on en parlait, peut-être un manque de confiance en elle, vu que c'est compliqué de passer de avant une compétition de potentiel titulaire à être sur le banc, mais elle s'est bien reprise. Et puis moi, j'ai trouvé sa deuxième mi-temps très solide. Elle a fait un match très propre, c'était plutôt bien. Il y a eu ces deux petites erreurs de relance, de passe latérale, mais elle s'est vite reprise.
Ouais, on a vu de l'investissement, de la couverture, un coup à droite, un coup à gauche. À un moment, on se demandait, Aurélien, où c'est qu'elle allait jouer. Voilà, Elisa de Almeida. Les Bleus sont qualifiés donc. Match 9h, Australie-France. T'as des souvenirs, Élise, d'avoir joué le pays hôte dans une compétition, peut-être pas en Coupe du Monde? Si, il y a eu l'Allemagne, peut-être 2011, au premier tour, je sais plus.
Non, l'Australie, je crois pas l'avoir joué en compétition.
Non, de jouer le pays hôte, tout simplement.
Ah oui, le pays hôte, oui, l'Allemagne, effectivement, oui.
C'était un parfum particulier, en plus, bon, l'Allemagne arrivait avec énormément d'ambition. C'était quoi tes souvenirs? C'était différent de jouer le pays hôte, on sentait que tout était hostile?
Oui, c'est ça. Il y avait énormément d'ambiance dans le stade. C'était assez hostile. Après, ça nous avait boosté aussi parce que ça fait du bien de jouer dans des stades comme ça. Et en plus, en 2011, le foot féminin était pas encore aussi développé et on jouait pas devant des stades pleins tous les jours. Hein. Donc voilà, c'était un peu nos premiers stades pleins en cette Coupe du Monde en Allemagne. Et c'est vrai que ça nous avait fait drôle de pas s'entendre en fait sur le terrain. Ça, c'était vraiment l'élément qui nous avait le plus marqué, on va dire, parce qu'effectivement, quand on communique sur le terrain, sur des choses basiques, seul, ça vient sur les transmissions de balles, on s'entendait vraiment pas. Et c'est ça qui nous avait le plus marqué à l'époque. Mais sinon, l'ambiance générale, ce brouhaha constant et cette un petit peu cette folie dans le stade, c'était quelque chose de très positif.
Oui, ça peut changer si on passe, d'un stade de D1. Je vais encore faire une dédicace à Dijon et Élise, mais du stade des Pousseaux à un énorme brouhaha à la Coupe du Monde, je peux comprendre que ça perturbe un petit peu. Kels a composé le 32-16. Salut Kels.
Salut, bonjour.
Est-ce que tu es un homme content?
Heureux, vraiment heureux. Et ouais, non, pour l'instant, tout se passe comme prévu.
Elles ont vraiment assuré. Qu'est-ce que tu as pensé du match?
Ouais, non, elles ont assuré. Franchement, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, contrairement avec Corinne Diacre, c'est qu'elles gèrent super bien les temps faibles, en fait. Les temps forts et les temps faibles. Avant, lorsqu'on dominait, on avait du mal à marquer. Là, à chaque fois, on est confiant. Et lorsqu'il y a des temps faibles, bah, pareil. Je me dis, bon, peut-être comme on poussait un peu les Marocaines, mais malgré ça, on est solide et. Non, c'est bien ce qu'elles font là, c'est très bien.
Tu trouves qu'elles ont fait le match qu'il fallait pour voilà se lancer dans ces phases à élimination directe et surtout aller défier l'Australie où on s'attend tous quand même à un tout autre contexte.
Ouais, non, c'est exactement ça. C'est ce qu'elles font là, pour moi, c'est exactement ce qu'il faut faire pour. Parce que moi, ce que je trouve, c'est qu'elles montent en puissance en fait et que même si au début ça a été un peu compliqué face à Jamaïque, on a eu face au Brésil que c'était mieux. Après il y a le Panama, même si c'était un dernier match, c'était le troisième match de poule. Mais moi je suis très très confiant. Franchement, je pensais que ça allait être l'Allemagne là aujourd'hui. Moi finalement je vais en sauter. Mais l'Australie, je trouve ça très bien. Et comme a dit tout à l'heure Fleur, c'est une bonne chose pour la revanche.
Mais oui, avec ce match de préparation perdu par les Bleus juste avant l'entrée en lice dans cette Coupe du Monde. Ce que dit Kels, tu le partages, Élise, cette montée en puissance, oui, on a encore vu l'équipe de France monter d'un cran, sachant que peut-être samedi, c'est pas un cran, mais deux crans qu'il va falloir monter.
Oui, je suis d'accord. C'est vrai que sur cette compétition, on voit quand même l'équipe monter en puissance. Après, le seul bémol de ce huitième, c'est effectivement, il y avait quand même une équipe assez faible en face. Quand on regarde les autres nations, le Maroc était peut-être un petit poil en dessous, mais ça n'enlève rien à la performance de la France dans le jeu, surtout produit en première mi-temps. Il y a eu vraiment énormément de mouvements, de qualité technique, de justesse, des bons déplacements, des très belles actions. Le second but est formidablement construit. Donc voilà, c'est une belle montée en puissance. Maintenant, effectivement, il va falloir encore hausser le niveau de jeu parce que ça va être un autre rythme et ça va être une autre intensité samedi prochain contre l'Australie.
Et encore une nouvelle fois, peut-être par rapport à aujourd'hui, un défi physique aussi parce que les Marocaines ne nous sont pas trop rentrées dedans. Il y a eu plus en deuxième mi-temps des mauvais gestes et on peut s'attendre, Élise, à ce que les Australiennes nous sautent à la gorge. Hein.
Oui, tout à fait. Elles vont mettre beaucoup d'agressivité, beaucoup d'impact et puis beaucoup aussi d'intensité dans leur course. L'Australie, c'est une équipe qui répète les courses à haute intensité de façon assez impressionnante. Ce sont leurs qualités, c'est leur style de foot, un peu comme le jeu canadien, américain, un peu dans ce style-là. Et c'est vrai qu'elles sont capables de reproduire ces courses-là. De façon impressionnante sur l'ensemble du match. Donc ça va être difficile parce qu'il va falloir tenir le rythme. Il va falloir aussi gérer les temps forts, les temps faibles, comme l'a dit notre auditeur. À un moment donné, il faut réussir aussi à faire le dos rond quand ça va pas, sans encaisser de but. Et il faudra aussi réussir à mettre notre jeu en place malgré l'impact physique imposé par l'Australie. Il faut faire parler notre technique qui est au-dessus de la leur.
Kels, pour terminer, un pronostic pour samedi 9h, Australie-France?
Bon, on va pas être très original, hein, je vais dire 2-1, ou sinon peut-être prolongation, pourquoi pas prolongation, on va les penalties.
Un partout et ensuite 2-1.
Elles sont à domicile, les Australiennes quand même, mais je pense qu'on est plus fort qu'elles techniquement. Donc, vraiment, moi franchement, à part le Japon, qui m'a vraiment fait une très très forte impression, les autres équipes, elles ne m'effraient pas, vraiment. Très très confiant.
Merci beaucoup Kels au 32-16. Merci. Et ce match Australie-France 9h samedi à vivre en direct en intégralité sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2023. On est encore ensemble pendant les 3 petites minutes, vous avez rendez-vous ensuite avec le Super Moscato Show et ses meilleurs moments. Peut-être qu'Anthony Reich aura une petite réaction, une dernière. On a déjà entendu F. Périsset et Wendy Renard. Sinon à partir de 18h, débrief dans l'intégral sport avec Flora Moussi de cette magnifique qualification des Bleus. T'es d'accord avec ce que disait Kels? Il n'y a que le Japon qui a vraiment impressionné sur cette Coupe du Monde. Sinon, le reste, ça se tient dans un petit mouchoir de poche, Élise.
Oui, le Japon, c'est très fort, comme le disait aussi Corinne Petit tout à l'heure en avant-match. C'est une équipe qui arrive toujours à développer un jeu séduisant. C'est une équipe qui va un peu à contre-courant, dans le sens où il n'y a pas forcément cet aspect athlétique, cet aspect de vitesse dans les courses. Mais par contre, elle se trouve les yeux fermés. Techniquement, c'est très très fort. Et puis, elle se déplace toujours dans les bons intervalles, toujours au bon endroit.
Ah, Eugénie Le Sommer est avec nous. Pardon, Élise, avec Anthony Reich depuis Adélaïde.
Eugénie Le Sommer qui est avec moi. Eugénie, une victoire parfaite, 4-0, un match maîtrisé, puis encore de nouveaux buts pour la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France.
Oui, un match maîtrisé, une belle victoire pour nous. On a très bien débuté le match, on a marqué ces 3 buts assez rapidement en première mi-temps, ce qui nous a facilité la tâche pour le reste du match. Donc voilà, une soirée presque parfaite. On peut toujours faire mieux, mais voilà, c'était un bon match de notre part. Et on a aussi le clean sheet, faut pas oublier. Donc voilà, on a été efficace dans les deux surfaces et c'est important.
C'est ce que me disait Wendy Renard il y a quelques minutes. Vous pouvez faire mieux, mais la montée en puissance se confirme tout de même. Vous avez été très appliquée en première période.
Oui. Là, je pense que la première période est aboutie. Après, on avait des espaces qu'on n'a pas su exploiter comme on aurait dû, mais le plus important, c'est d'aller de l'avant, de continuer à progresser. Et comme vous l'avez dit, on est encore en train de monter en puissance, donc c'est de bon augure pour la suite. On arrive avec le plein de confiance.
Je sais que vous avez regardé les matchs ces derniers jours et je crois aussi l'Australie. Vous allez retrouver une joueuse redoutable qui a fait ses premières minutes. C'est Sam Kerr, l'attaquante et la star australienne devant tout un pays. Il y aura du danger à redouter.
Oui, on sait ce que c'est de jouer à la maison. On l'a vécu il y a 4 ans, donc on sait que le public va être avec elle. Tout le stade va être pour l'Australie. Donc à nous de bien nous préparer à ça. Et puis on connaît leur jeu. On les a joués il y a quelques jours en arrivant en Australie. Donc on avait perdu ce match, mais aujourd'hui c'est un match de compétition. Donc
faut remettre les points sur les i.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup, Eugénie. Félicitations.
Et merci à Anthony Reich. Très bonne soirée pour toi. Il est tard en Australie, notre envoyé spécial. On te retrouve samedi à 9h pour Australie-France. Merci Aurélien Tiercin en commentaire. Merci Élise. Rendez-vous samedi. On sera là. On va se lever un petit peu plus tôt. Mais c'est pas grave parce que ça va être un énorme match. Cette Australie-France en direct et en intégralité. Merci aussi Fleur. On te retrouve très rapidement.
Merci, salut.
Pour l'intégral foot spécial Coupe du Monde féminine sur RMC, RMC Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2023. Le rendez-vous donc samedi 9h, on sera là pour Australie-France.